Lire avec moi au chapitre 1er de l'épître selon Jacques. Est-ce que c'est assez fort? Vous m'entendez bien? Au fond, oui. Donc si on m'entend bien au fond, c'est bon. Jacques, chapitre 1er, verset 1er, s'il vous plaît. Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus qui sont dans la dispersion, salut. Ça, c'est l'introduction. L'auteur est donné ainsi que les destinataires. À partir du verset 2, le premier sujet, bien, c'est celui de la patience. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Amen. Ce que nous apprenons de la patience, c'est qu'elle s'acquiert dans les difficultés. L'épreuve produit la patience. Donc tout est utile dans notre vie. Amen. Même ce qui nous est désagréable ou incompréhensible, même si actuellement vous pourriez passer par des moments particulièrement difficiles, vous ne vous en rendez pas compte, mais ce que vous passez produit en vous la patience. Gloire à Dieu. Et cette patience, elle nous perfectionne. Il y a deux étapes. L'épreuve produit la patience. La patience produit l'accomplissement, le perfectionnement. La patience nous perfectionne. Plus nous allons réussir à attendre, plus nous mûrirons. Qu'est-ce que c'est que de réussir à attendre? Prier, parfois, sans parler. Attendre que le Seigneur agisse, se confier en lui. Traverser les moments difficiles dans la foi. C'est parfois en arrêtant d'agir que Dieu nous perfectionne. Amen. La patience nous perfectionne. Ce n'est donc pas une faiblesse que d'attendre. Attendre en nous confiant en Dieu nous donnera de grandir. Le deuxième sujet à partir du verset 5, c'est la prière. On lit ensemble. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Amen. La prière. Alors, la prière, vous le verrez, et c'est ce qui caractérise l'épître de Jacques, elle est assez juive dans sa structure. Les sujets sont répétés. Nous, occidentaux, nous n'aimons pas la répétition. Nous aimons bien plutôt ce qui est linéaire et ce qui progresse. Il n'est pas rare dans la Bible, avec cette culture juive, qu'en fait, les enseignements dans un livre soient repris et répétés. Et vous verrez que la prière est répétée tout au long de l'épître. La première prière, ce qui est intéressant ici, le premier appel à prier, à demander à Dieu, ben le sujet c'est la sagesse. Le sujet de prière, c'est la sagesse. Quelqu'un qui manque de la sagesse, qui la demande à Dieu. Je pense que c'est l'un des premiers sujets de notre vie de prière. Vous ne pensez pas? Nous manquons pas. Alors si quelqu'un, est-ce que ça veut dire que quelqu'un d'autre n'en aurait pas besoin? Je ne pense pas. Plutôt si quelqu'un réalise et ressent le besoin. Parce que nous manquons certainement tous de sagesse. Si quelqu'un manque de sagesse, ben qu'il la demande. Donc je pense que C'est intéressant de remarquer que la première mention de la prière dans Jacques donne comme premier sujet de prière le besoin de la sagesse. Le besoin de la sagesse. Qu'il la demande à Dieu. Et Dieu ne nous fera pas de reproche de tout ce que nous avons mal fait ou mal dit par manque de sagesse. Merci Seigneur. Il donne simplement sans faire de reproche. Nous, nous faisons souvent bien des reproches. Mais qu'il est rassurant dans la prière de savoir que nous nous adressons à un Dieu qui donne sans reprocher. Alléluia. Parce que parfois nous aurions peur de nous approcher avec toutes les maladresses, tout ce que nous avons pu dire ou faire. Mais Jacques dit, il donnera simplement, c'est simple avec le Seigneur. Il n'y a rien derrière, pas de reproche. Gloire à Dieu. Alors, ayons confiance. Même si peut-être sur votre lieu de travail, vos supérieurs vous ont fait des reproches, vous ont envoyé une lettre d'avertissement, que sais-je encore, parce que vous avez même parfois eu un mauvais comportement, cela peut arriver pour un chrétien, mais si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, et le Seigneur simplement va vous la donner et ne vous fera pas de reproche. Alléluia. Il ne fera pas de reproche et il ne sera donné. Cependant, il est enseigné ensuite que dans la prière, le moyen, c'est la foi. Le sujet de cette prière, c'est la sagesse, et le moyen, c'est la foi. Priez, mais avec foi. Et ici, ce qui est curieux, c'est que la foi nous parle plutôt de détermination. Avec foi, sans douter, et l'image, c'est la mer avec ses flots, et il est question d'un homme irrésolu, non déterminé. La foi, c'est la persévérance à demander. C'est la résolution. Nous manquons de sagesse, mais ne pensons pas, parce que franchement, nous en manquons beaucoup, qu'une seule petite prière suffira. Mais il faut chercher, il faut demander, il faut continuer, il faut être résolu dans nos demandes. La foi, c'est être déterminé. Seigneur, je n'ai pas cela, j'en manque, et je prie jusqu'à ce que. Gloire à Dieu. Le sujet de prière, c'est la sagesse, le moyen, c'est la foi, qui est une détermination. Vous verrez, la foi, c'est un sujet qui revient cycliquement aussi dans la prière. D'ailleurs, ce découpage, j'ai dit c'est la prière, on aurait pu dire d'abord c'est la sagesse et puis c'est la foi. Mais il me semble qu'en parlant de cette prière dans laquelle il y a ce sujet de la sagesse et le moyen de la foi, ça éclaire aussi d'une autre façon le passage. Verset 9, s'il vous plaît. Alors, quatrième sujet, la position sociale. Verset 9. Que le frère de condition humble se glorifie de son élévation. Que le riche, au contraire, se glorifie de son humiliation. Car il passera comme la fleur de l'herbe. Le soleil s'est levé avec sa chaleur ardente. Il a desséché l'herbe. Sa fleur est tombée. Et la beauté de son aspect a disparu. Ainsi, le riche se flétrira dans ses entreprises. Amen. Il est question d'être relevé et abaissé dans l'Église, en Jésus-Christ. Alors, le pauvre relevé et le riche abaissé. De telle sorte, si je comprends bien, qu'en fait, au fond, il y a une égalité dans l'Église. Amen. L'un est rabaissé, l'autre est relevé, pour que nous soyons tous au même niveau. Dans le monde, votre catégorie sociale détermine votre valeur, mais pas dans l'Église. Même si dans l'Église, nous sommes beaucoup trop influencés par le monde, nous devons être délivrés de cette différence malsaine. Il n'y a pas dans l'Église des gens avec diplôme, sans diplôme, avec argent, sans argent, que sais-je encore. Nous sommes tous frères en Jésus-Christ, notre Seigneur. Vous verrez que ce sujet revient beaucoup dans l'épître de Jacques, la position sociale. C'est une vraie tentation, c'est un vrai problème qui a toujours existé, c'est que l'être humain s'enorgueillit de sa position sociale. Alors, quel bonheur pour tous ceux qui, parmi nous, n'ont pas beaucoup de salaire, ont des difficultés, sont humiliés au travail en bas de l'échelon. Le Seigneur vous a relevé. Alléluia. Vous avez tout en Jésus-Christ. Et quel bienfait aussi pour le riche qui, avant sa conversion, était un but de lui-même orgueilleux et a compris que tout ça, c'était futile. Et quel bonheur pour lui, dans l'Église, avoir compris que la vraie richesse, c'est Jésus-Christ et que l'on peut s'asseoir sur le même rang parce que quand on rentre dans l'Église, il n'y a plus de président, directeur général. Il n'y a plus de ministre. Il n'y a plus que des enfants de Dieu avec le Père. Alléluia. Poursuivons. Quatrième sujet, la tentation. Verset 12. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « C'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal, et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé, produit la mort. Alors, ce n'est pas précisé la mort, mais c'est la mort immédiate et éternelle. Le péché empêche la vie de l'esprit et nous tue. Celui qui vivra selon la chair, eh bien, mourra comme Adam et Ève l'avaient entendu plus tôt. Que veut dire ce passage au sujet de la tentation? Je le résume parce qu'il faut aller vite. Le mal vient de nous et le bien vient de Dieu. D'ailleurs, j'ai oublié parce que ma Bible coupe, mais il fallait continuer le verset 16. « Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. » Il vient de dire que le péché, ça vient de nous, ça vient pas de Dieu. « Ne vous y trompez pas, toute grâce excellente. » Et tout don parfait descende d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Amen. Donc je résume ces versets 12 à 17. Le mal vient de nous et le bien vient de Dieu. Amen. Personne ne dit c'est Dieu qui nous tente. Si on pêche, c'est de notre faute. Le mal est en nous. Et juste après, il dit, au contraire, ne vous y trompez pas, au contraire, toute grâce excellente, tout don parfait vient d'en haut du Père des Lumières. Donc, le mal vient de nous, le bien vient de Dieu. Amen. C'est simple, mais ô combien c'est important de toujours rester dans cette humilité. Nous ne sommes que des pécheurs, Dieu seul est saint. À lui soit la gloire. Alléluia. Et lorsque nous tombons dans la vie, lorsque nous tombons dans le péché, c'est pas Dieu qui nous a fait un croche-pied. C'est pas les circonstances, parce que quand on dit « mais c'est pas vraiment de ma faute », c'est parce que j'ai été presque poussé, j'étais presque obligé. C'est quelque part dire que c'est Dieu qui nous tente. Parce que Dieu est souverain et Dieu permet tout dans nos vies. Mais ne disons pas, au fond, je n'avais pas le choix. Nous avons toujours le choix. Et souvent, quand nous faisons les mauvais choix, le seul moyen de nous en sortir, c'est de nous repentir, c'est-à-dire de dire, c'est de ma faute. C'est moi qui ai péché. C'est pas Dieu. C'est pas les circonstances. J'ai péché, dira David. Amen. On ne pourra pas éviter de chuter. On chutera tous dans notre vie chrétienne. Mais ce qu'il faudra à chaque fois, c'est reconnaître que c'est de notre faute. Amen. On continue, verset 18, il est dit, « Il nous a engendrés selon... Alors, le sujet, c'est la parole de Dieu maintenant. Il nous a engendrés selon sa volonté, par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ses créatures. Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout débordement de méchanceté, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole, ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Si quelqu'un croit être religieux sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. Amen. À partir donc du verset 18, vient la parole de Dieu qui nous a engendrés. Ce texte, on l'a lu la semaine dernière, je m'y attendrai pas davantage. Je vous rappelle que la semaine dernière, nous avons médité sur le besoin de revenir à l'Écriture. D'ailleurs, dans ce message, je vous avais dit que dans la première Église, on lisait la Bible et qu'il était bon de le faire parfois. Et c'est aussi pour cela que ce matin, j'ai voulu lire avec vous toute l'épître de Jacques pour lire l'Écriture ensemble. Alors, la parole de Dieu nous a engendrés. Ce qui compte donc, c'est d'écouter plutôt que de parler. Mais c'est dans le déroulement. Le mal vient de nous, le bien vient de Dieu. La preuve, Dieu nous a donné sa parole qui nous a engendrés. Et juste après, c'est logique, alors que Jacques dise, eh bien, ne parlons pas, mais écoutons. Puisque le mal vient de nous et que le bien vient de Dieu, il vaut mieux alors écouter plutôt que parler. Que Dieu nous donne cette sagesse qui nous manque, d'écouter plutôt que de parler. Mais écouter, c'est une chose. Jacques dit, on peut s'illusionner, pratiquer, c'est mieux qu'écouter. Alors, écouter, c'est mieux que parler, mais pratiquer, c'est mieux qu'écouter. Parce que quand on écoute la parole de Dieu et qu'on la reçoit avec un cœur bien disposé, franchement, plus d'une fois, je me suis fait avoir, j'ai cru que c'était bon, le travail était terminé. J'ai entendu la parole, j'ai dit amen de tout mon cœur, mais après, j'ai oublié ce que j'ai vu, comme dans ce miroir. Et là encore, il faut de la persévérance. Celui qui aura plongé ses regards et qui aura persévéré. Ce thème de la patience, de la persévérance revient tout au long de l'Épître. Et ici, c'est patience ou persévérance dans l'obéissance, dans la pratique de ce que l'on a d'abord écouté. Que Dieu nous aide donc à fermer notre bouche, à ouvrir notre oreille et à persévérer dans l'activité qui consiste à la pratique de la parole de Dieu. Vous savez, celui-là sera heureux. On n'est pas heureux quand on écoute seulement, bien qu'il y a de la joie à entendre le Seigneur. Mais on est surtout vraiment heureux quand on vit ce que l'on a écouté. Et ça se termine par des exemples concrets. Vous le verrez, Jacques aime faire cela. Trois exemples, les versets 26 et 27. La langue, secourir les faibles, et se séparer du monde. Voilà ce que c'est que de pratiquer la parole. Pratiquer la parole, c'est faire attention à sa langue, la tenir en bride, c'est secourir les faibles, parce que visiter les veuves et leurs orphelins, c'est pas seulement ouvrir la porte, boire un café et partir. Visiter les veuves et leurs orphelins, c'est aller les voir, pour les aider, pour leur donner parfois ce qui leur manque. C'est ça, aller visiter les veuves et les orphelins. C'est aller les aider. Donc, la langue, le secours des faibles et, en dernier lieu, la séparation du monde, se préserver des souillures du monde. C'est ça, pratiquer, en trois exemples, la parole de Dieu. Ce n'est pas limité à ça, bien sûr, mais Jacques, vous le verrez, après avoir donné un enseignement, parfois, veut être très concret. J'ai lu un livre il n'y a pas longtemps, où à chaque fin de chapitre, l'auteur disait « application » et il donnait quelques recommandations à faire suite à la lecture de ce chapitre. Jacques fait un peu ça dans son épître. Alors, au chapitre 2 maintenant, le sujet c'est le favoritisme. « Mes frères, que votre foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ soit exempte de tout favoritisme. Supposez en effet qu'il entre dans votre assemblée un homme avec un anneau d'or et un habit magnifique, et qu'il y entre aussi un pauvre misérablement vêtu. Si tournant vos regards vers celui qui porte l'habit magnifique, vous lui dites, « Toi, assieds-toi à cette place d'honneur. » Et si vous dites au pauvre, « Toi, tiens-toi là debout, ou bien assieds-toi au-dessous de mon marchepied. » Ne faites-vous point en vous-même une distinction, et n'êtes-vous pas des juges aux pensées mauvaises ? Écoutez, mes frères bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches en la foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qu'il aime ? Et vous, vous avilissez le pauvre. N'est-ce pas les riches qui vous oppriment et qui vous traînent devant les tribunaux ? N'est-ce pas eux qui outragent le beau nom que vous portez ? Si vous accomplissez la loi royale selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien. Mais si vous faites du favoritisme, deuxième fois, vous commettez un péché. Vous êtes condamnés par la loi comme des transgresseurs. Car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. En effet, celui qui a dit « Tu ne commettras point d'adultère » a dit aussi « Tu ne tueras point ». Or, si tu ne commets point d'adultère, mais que tu commettes un meurtre, tu deviens transgresseur de la loi en général. Parlez et agissez comme devant être jugés par une loi de liberté, car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. La miséricorde triomphe du jugement. Amen. Alors, le favoritisme ici est un péché. Nous venons de le lire, est un péché. Alors quand on parle du péché, on pense souvent aux choses qui nous semblent grossières, graves, comme après, Jacques le dit, adultère, meurtre. Et on peut minimiser d'autres choses. On ne pense pas forcément que le mépris est un péché. Parce qu'ici, le favoritisme consiste à préférer des riches et mépriser des pauvres. Mépriser les autres, c'est un péché. Et particulièrement, les mépriser dans l'Église. Il faut que dans l'Église, les bas tombés, les mendiants, soient accueillis au nom du Seigneur Jésus. Amen. Il faut que cette maison soit une maison pour ceux qui n'ont pas d'espérance, qui sont dans des impasses. Jacques revient un peu ici, encore une fois, sur le statut social, deuxième fois, et il développe. Je n'ai pas vérifié, mais il serait intéressant peut-être de regarder si ce sujet lié au statut social n'emporterait pas le plus grand nombre de versets dans l'Épître. Et nous devons faire attention, bien-aimés, de ne pas avoir dans l'Église de favoritisme. Le favoritisme engendre la division. Avez-vous des cercles d'amis, d'intimes dans l'Église ? Élargissez votre cercle à toute l'Église. Et même au-delà de l'Église ici. Il est question de quelqu'un qui entre et qui est pauvre et on lui dit « ben va-toi » ou un riche. Élargissons notre cœur. Vous savez, quand on préfère quelqu'un ou quand on est trop proche de quelqu'un, c'est toujours au détriment de l'Église. Parce qu'on va constituer comme un noyau qui se distinguera de l'ensemble. Alors, le favoritisme ici est surtout basé sur le statut social. Il ne faudrait pas que dans l'Assemblée, des personnes de même statut se retrouvent. Ce qui nous fait nous retrouver, c'est l'Évangile. C'est le Seigneur. Amen. Ce n'est certainement pas des critères du monde. Alors, il est question ici de l'obéissance de l'amour. Si vous accomplissez la loi royale, selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Vous faites bien. En fait, la solution à ce favoritisme, c'est l'obéissance de l'amour. Aimer son prochain comme nous-mêmes. Quel qu'il soit, riche ou pauvre, l'amour est une question d'obéissance. N'est pas une question avant tout de sentiment. Nous nous trompons beaucoup quand nous parlons de l'amour. Nous confondons amour parfois et préférence. Quand on favorise quelqu'un parce qu'on l'aime beaucoup, est-ce que c'est vraiment de l'amour si on le favorise au détriment de l'autre? Alors Jacques dit, la loi royale va à l'encontre du favoritisme. La loi royale, c'est d'aimer tout le monde pareil, d'aimer son prochain comme soi-même. L'amour est une question d'obéissance. Dans l'amour, on ne choisit pas, ou on choisit tous, plutôt. Alléluia. On ne sélectionne pas. Puis la conclusion, elle est impressionnante. La miséricorde. La miséricorde. Le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. Au fond, Dieu nous traitera comme on a traité les autres. Et si nous sommes durs et sans miséricorde, Dieu sera dur et sans miséricorde avec nous. Il y a de quoi trembler. Mais à la fois trembler et à la fois, quelle force pour aimer. Quand on réalise qu'au fond, ce que je suis avec les autres, c'est ce que Dieu sera avec moi, ça peut beaucoup m'aider à faire le choix de l'amour. Alléluia. Ici, la miséricorde qui triomphe du jugement, c'est l'accueil de tous sans favoritisme dans le contexte. Continuons au verset 14, le thème, ce sont les œuvres. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Cette foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise, allez en paix, chauffez-vous et rassasiez-vous, et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi, et moi j'ai les œuvres. C'est de l'ironie là ici. Hein. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi, et ils tremblent. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres, et que par les œuvres la foi fut rendue parfaite. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture, Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice, et il fut appelé ami de Dieu. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Rahab, la prostituée, ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres lorsqu'elle reçut les messagers et qu'elle les fit partir par un autre chemin? Comme le corps sans esprit est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Amen. Alors ce passage revient sur le concret, l'application, sur la foi, la nécessité des œuvres, le pauvre. Tout ça, ce sont des thèmes que nous avons déjà vus et qui sont répétés. Les œuvres prouvent la foi. Les œuvres prouvent la foi. Ce que Jacques ici combat, c'est le danger d'être en complet décalage entre ce qu'on vit et ce qu'on croit. Jacques dit, on doit vivre selon ce que l'on croit. Et il donne aussi là des exemples. Rapidement, je vous ferai remarquer que ça semble contredire Paul. Paul, dans l'Épître aux Romains, prend le même passage d'Abraham, pour justement dire que l'on est justifié par la foi. Mais Jacques dit ici, avec le même passage de l'Ancien Testament, que c'est une preuve qu'on est aussi justifié par les œuvres et pas par la foi seulement. Luther, le réformateur, a eu beaucoup de mal avec l'épître de Jacques, entre autres à cause de ça, parce qu'il y voyait là une contradiction. Il n'y a pas de contradiction, la parole ne se contredit pas. Mais il y a deux façons d'expliquer un même passage différemment. Alors ça, c'est utile aussi pour chacun d'entre nous. La parole de Dieu, elle est riche. L'Ancien Testament est riche. Ne soyez pas étonnés si parfois, deux pasteurs différents, avec le même passage, pourra dire des choses différentes qui seront complémentaires, mais sans forcément s'opposer. Parce que dans le Nouveau Testament même, la façon dont les apôtres ont compris l'Ancien Testament, parfois sur les mêmes passages, pouvait être complémentaire et forcément donc différent. Ne cherchons pas à opposer ce qui ne s'oppose pas. La foi et les œuvres. Il faut avancer, allons au chapitre 3. Mais le sujet, c'est la langue. Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Nous brochons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Si nous mettons le mort dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons ainsi leur corps tout entier. Voici même les navires qui sont si grands et que poussent des vents impétueux sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. De même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voyez comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. Toutes les espèces de bêtes, d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins sont domptées et ont été domptées par l'homme. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Par elle, nous bénissons le Seigneur notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives ou une vigne des figues? De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. Amen. Alors, au sujet de la langue, eh bien, c'est surtout sur les dégâts qu'elle provoque que Jacques s'attarde. Sur la puissance, en fait. Mais pas la puissance positive. La puissance destructrice de la langue. Tout d'abord, son influence. La langue est comparée à un petit gouvernail qui dirige un grand bateau. Avec la langue, on peut diriger tout un groupe. Une seule langue. La langue influence, a un pouvoir d'influence énorme. Alors, bon entendeur, salut. Ensuite, la langue, est un feu qui peut faire un incendie de forêt terrible et tout ravager. En son temps, je l'ai dit, il y a des mois, je me permets de le redire, dans notre assemblée, nous avons un problème avec la langue et cela ne fait pas l'œuvre de Dieu, mais fait l'œuvre de l'ennemi. Et cela peut ravager et incendier. Continuons au chapitre 4, 3, verset 13. Alors, ici, il est dit, alors c'était le plus difficile pour moi à titrer, à catégoriser, parce qu'on peut le faire de plusieurs façons différentes. J'ai intitulé « La paix et la guerre », chapitre 3, verset 13, au chapitre 4, verset 12. « La paix et la guerre ». Alors, on va le lire. Retenez ce titre que je propose et vous verrez par vous-même pourquoi j'ai été dans ce sens. Chapitre 3, verset 13. « Lequel d'entre vous est sage et intelligent, qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, vous ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité, d'hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Donc la sagesse amène à la paix. Puis il y a le gros chapitre 4, le chiffre 4, qui fait qu'on a l'impression que ça s'arrête là. Mais regardez, dans la continuité de cette paix, maintenant il parle de guerre. D'où viennent les luttes? Et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez, vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qu'il a fait habiter en nous. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Amen. On lira la suite du passage qui concerne la paix et la guerre parce que à partir du verset 7, c'est la solution. C'est la solution. Alors, la première partie, chapitre 3, verset 13 jusqu'à la fin du chapitre 3, il y a une description des deux sagesses. Il y a deux sagesses différentes. Il y a une sagesse terrestre et il y a une sagesse d'en haut. Et ce qui est fort, c'est que la sagesse d'en haut, elle se conclut au verset 18 par la paix. La paix. La justice, mais dans la paix. La sagesse est pacifique, conciliante, pleine de bons fruits. La sagesse, d'ailleurs, Salomon, qui était le roi sage, ben son nom même veut dire le pacifique. La sagesse d'en haut amène la paix. Par contre, la sagesse d'en bas, c'est tout le contraire. Tout le contraire. Et ça ouvre une porte au diable. Cette sagesse d'en bas, elle est terrestre, charnelle, diabolique. Cette sagesse charnelle ouvre une porte à l'adversaire pour détruire. La sagesse d'en haut, elle amène à la paix. Gloire à Dieu. Et puis à partir du chapitre 4, justement, Jacques dit, alors comment ça se fait que vous connaissez des conflits, des guerres, des oppositions, puisque je viens de vous dire que la sagesse donne la paix. La sagesse donne la paix et vous ne vivez pas cette paix entre vous. Alors d'où tout cela vient? Alors c'est intéressant de le voir. Que dit-il? L'amour du monde. Au fond, cette guerre, c'est l'amour du monde. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Quand on est divisé, on est mondain. Puisque Jacques parle de ces oppositions, de ces luttes, et il dit, mais en fait, adultère que vous êtes, vous aimez le monde. Pour qu'une église soit unie, il faut qu'elle n'aime pas le monde, mais qu'elle aime le Seigneur. Alléluia. C'est tout simple. C'est tout simple. L'amour du monde. Et puis l'orgueil. On l'a lu au verset 6. Dieu résiste aux orgueilleux. Il fait grâce aux âmes. On a chanté tout à l'heure un cantique sur cela. Les deux éléments qui réunissent l'explication selon Jacques de leur conflit, c'est l'amour du monde et l'orgueil. À partir du verset 7, je le disais, il y a la solution. Lisons ensemble. Soumettez-vous donc à Dieu. Alors, seulement si on se soumet à Dieu, on pourra résister au diable. Et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus, ça revient. Sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes, que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Ne parlez point mal les uns des autres, frères. Celui qui parle mal d'un frère ou qui juge son frère parle mal de la loi et juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu n'es pas observateur de la loi, mais tu en es juge. Un seul est législateur et juge, c'est celui qui peut sauver et perdre. Mais toi, qui es-tu qui juge le prochain? Amen. Alors, le remède, c'est tout simplement de s'approcher de Dieu. Nous venons de le lire, là. Soumettez-vous à Dieu. Et ensuite, il est dit, approchez-vous de Dieu. Au fond, à un moment donné, il faut comprendre que le plus important dans la vie, c'est pas ce qui se passe avec les autres. Mais c'est ma relation avec Dieu. Vous êtes, d'où viennent vos luttes, vos conflits? L'amour du monde, l'orgueil? Et si vous voulez que ça aille mieux, humiliez-vous devant Dieu, approchez-vous de Dieu. Ne trouvez-vous pas que c'est notre premier besoin tout au long de notre vie chrétienne? En fait, de nous approcher de Dieu. Alléluia. Et c'est dans ce contexte qu'il est dit, et il s'approchera de vous. Dans un contexte où ils sont en lutte, en querelle. On pourrait se dire, mais non, avec ce que j'ai fait, avec ce que j'ai dit, m'approcher de Dieu, c'est plus certain maintenant. Est-ce que Dieu va m'accueillir? Eh bien oui, approchez-vous de Dieu. Il s'approchera de vous. Alléluia. Vous savez, Dieu ne nous s'approche pas de nous que quand on pense qu'on est bien. Adam et Ève se cachaient, mais Dieu s'est approché d'eux. Où es-tu, Adam? Alléluia. Où es-tu, Adam? Et s'approcher de Dieu, bien sûr, ça va se faire dans le deuil, dans le ressenti de notre misère. Sentez votre misère. Nous sommes tellement promptes à sentir la misère des autres. Alors que Dieu nous appelle à sentir la nôtre. Alors on comprend la conclusion de cette solution. Ne parlez pas mal les uns des autres, frères. C'est une conclusion logique. Il dit, mais d'où est-ce que ça vient, la guerre là entre vous? Le monde, l'orgueil. Humiliez-vous devant Dieu. Même pas humiliez-vous les uns vis-à-vis des autres, mais humiliez-vous devant Dieu. Approchez-vous de Dieu. Sentez votre misère. Et alors, arrêtez de parler de mal les uns les autres. Les solutions, nous les avons sous nos yeux. Que Dieu nous aide à revenir à lui. Alléluia. À partir du verset 13, on va aller jusqu'au chapitre 5, verset 6. On arrêtera peut-être parce que l'heure est avancée. On n'ira pas jusqu'au bout. On reprend. Alors là, c'est la réussite matérielle. À vous maintenant qui dites, chapitre 4, verset 13, à vous maintenant qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons. Déjà, on se réveillera demain matin déjà. Et nous ferons ceci ou cela. Mais maintenant, vous vous glorifiez dans vos pensées orgueilleuses. C'est chose mauvaise de se glorifier de la sorte. Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. À vous maintenant, riches, pleurez et gémissez à cause des malheurs qui viendront sur vous. Vos richesses sont pourries et vos vêtements sont rongés par les teignes. Votre or et votre argent sont rouillés, et leur rouille s'élèvera en témoignage contre vous et dévorera vos chairs comme un feu. Vous avez amassé des trésors dans les derniers jours. Voici le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs et dont vous les avez frustrés, cris, et les cris des moissonneurs sont parvenus jusqu'aux oreilles du Seigneur des armées. Vous avez vécu sur la terre dans les voluptés et dans les délices. Vous avez rassasié vos cœurs au jour du carnage. Vous avez condamné, vous avez tué le juste qui ne vous a pas résisté. Amen. Je ne sais pas si un prédicateur, un pasteur était de passage au bagne et dirait, parlerait comme ça. Moi, je pense qu'à la fin de sa prédication, vous direz, mais lui, c'est un anticapitaliste. Lui, il n'aime pas les riches. Il est raciste sur les riches. Et c'est vrai que, quelque part, la parole de Dieu nous met quand même en garde sur les richesses. Et tant mieux pour nous. Elles ont un pouvoir d'attraction énorme. Quand je vois nos jeunes aujourd'hui avec les réseaux sociaux, quels sont les nouveaux héros? Ce sont des gens qui, parfois dans le net ou ailleurs, ont réussi en peu de temps à devenir parmi les plus riches du monde. Ce sont les nouveaux héros de notre jeunesse. On ne s'inquiète pas de savoir si les uns comme les autres, à la tête d'immenses fortunes, sont honnêtes. Sur quoi a été basée leur réussite? On ne se soucie pas non plus des conditions de travail de certains ouvriers de leur société. Mais on est ébahi par la réussite mondiale et colossale, par cette finance, par ce Dieu Mammon. Et Jacques, dans son épître, nous met vraiment en garde. Il ne voit pas les choses, il n'est pas impressionné par les riches. Il dit, mais les riches exploitent et Dieu les jugera. Il y a des bons riches, hein, je le sais bien. Et Jacques le savait bien aussi. Mais la règle générale, c'est quand même ça. Alors, nous ne voudrions pas avoir, nous ne voudrions pas être pauvres, mais nous ne voulons pas non plus être riches. Nous voulons craindre le Seigneur. Alléluia. Et si quelqu'un, par la grâce de Dieu, est riche, alors qu'il mette ses richesses au service du Seigneur, et Dieu le bénira. Alléluia. Parce que ce n'est pas un péché d'être riche, c'est peut-être un péché de vouloir être riche. Ça, c'est autre chose. Allez, on a le temps de terminer, on fera la lecture, chapitre 5, verset 7. Parce, pourquoi je voudrais terminer? Parce que vous remarquerez que l'épître se termine comme elle a commencé, par la patience. Chapitre 5, verset 7. Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici, le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Vous aussi, soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Ne vous plaignez pas les uns des autres. Ça aussi, c'est un thème qui revient à la critique. Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés. Voici, le juge est à la porte. Prenez, mes frères, pour modèle de souffrance et de patience les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Voici, nous disons, bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Avant toute chose, mes frères, ne jurez ni par le ciel, ni par la terre, ni par aucun autre serment, mais que votre oui soit oui et que votre non soit non, afin que vous ne tombiez pas sous le jugement. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance qu'il prie? Quelqu'un est-il dans la joie qu'il chante des cantiques? Quelqu'un parmi vous est-il malade qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur? La prière, encore une fois ce sujet revient, la prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera, et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres. Donc les uns aux autres, dans le contexte, c'est des chrétiens malades qui confessent aux anciens leurs péchés avant que les anciens ne prient pour eux. Et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. C'est bien le contexte. La prière agissante du juste a une grande efficacité. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec insistance, donc persévérance, patience, pour qu'il ne pleuve point. Et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. Amen. On terminera avec les derniers versets. L'épître se termine comme elle a commencé, un appel à la patience, dans la bonne perspective, patienter jusqu'à ce que Jésus revient. Pourquoi on patiente? Parce qu'on croit que Jésus vient. Amen. Il vient. Patienter sans murmurer, sans se plaindre les uns des autres. Vous savez que c'est écrit, le peuple s'impatienta en route dans le désert et ils ont commencé à murmurer. Patienter, c'est pas s'en prendre aux autres. C'est continuer d'avancer. La patience des prophètes, la patience de Job, la patience des malades qui, dans leur maladie, font appel aux anciens et se confient en Dieu. Et au besoin, ils confessent aussi leurs péchés. Alors attention, hein, on n'est pas forcément malade parce qu'on a péché, mais il peut arriver que Dieu reprenne quelqu'un par la maladie afin de l'amener à la repentance. Et puis, la persévérance d'Élie dans la prière. Le premier chapitre, c'était « Homme irrésolu » de demander avec résolution. Le dernier chapitre, c'est Élie qui a demandé avec persévérance et qui a obtenu la pluie. Versets 19 et 20, « Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité et qu'un autre l'y ramène, qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Amen. » Je trouve que c'est une très belle conclusion en deux verbes, « ramener et couvrir ». Ramener et couvrir. C'est ce à quoi Dieu nous appelle. Vous savez, le Seigneur revient bientôt, il faut patienter, sans murmurer, comme les prophètes, comme Job, et il faut aider les autres, les ramener et couvrir. La Bible dit, l'amour couvre une multitude de péchés, l'amour cache. Attention de ne pas dévoiler, découvrir. Mais on ne va pas aider les gens. Si on veut que tous, dans cette patience, soient enlevés par le Seigneur, il faut avoir des dispositions de bienveillance, gagner, ramener, couvrir. Alléluia. Que Dieu nous aide à avoir ces dispositions. Excusez-moi d'avoir été un peu long.